Chapitre 3 Versets 1 à 13 La surveillance dans l'assemblée de Dieu. Versets 1 à 7 Citation de l'Écriture. Cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. Fin de citation. L'apôtre a parlé de la position relative des hommes et des femmes et de la conduite qui leur convient dans la maison de Dieu. Ceci prépare la voie à l'instruction concernant la surveillance dans l'assemblée de Dieu. L'apôtre dit « Si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne ». Dans le discours de l'apôtre aux anciens d'Éphèse, trois caractéristiques de la surveillance sont placées devant nous. D'abord, les surveillants ont à prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau. Ils ont à chercher ce que leur propre marche et la marche du peuple du Seigneur soient dignes du Seigneur. Deuxièmement, ils ont à paître l'assemblée de Dieu. Non seulement ils ont le souci de la marche pratique du peuple de Dieu, mais ils cherchent aussi le bien-être de leurs âmes, afin qu'ils entrent dans leur privilège chrétien et que leur âme progresse dans la vérité. Troisièmement, ils ont à veiller sur le troupeau afin qu'il soit préservé des attaques des ennemis de l'extérieur, comme des corruptions provenant de l'intérieur du cercle chrétien par l'action d'hommes pervers détournant les âmes du Seigneur pour les attirer à eux-mêmes. Acte 20, versets 28 à 31. Voilà l'œuvre de surveillance. Et l'apôtre en parle comme d'une œuvre bonne. Au sujet du témoignage de la grâce de Dieu, qui doit se répandre depuis la maison de Dieu, l'apôtre en a déjà parlé comme étant « bon et agréable devant Dieu », chapitre 2, verset 3. Quant aux soins envers ceux qui composent la maison de Dieu, afin que leur comportement convienne à la maison, ces soins pour les âmes sont qualifiés d'œuvre bonne. Il est important de rappeler que l'apôtre ne parle pas ici de dons, mais de fonctions locales ou charges pour le soin de l'assemblée. La chrétienté a confondu les dons avec les charges ou offices. Ils sont tout à fait distincts dans l'Écriture. Les dons sont donnés par la tête, montés au ciel, et sont placés dans l'assemblée. Éphésiens 4, versets 8 à 11, 1 Corinthiens 12, verset 28. L'exercice d'un don ne peut pas être confiné à une assemblée locale. La charge ou office de surveillant est purement locale. En outre, il n'y a rien, dans l'instruction donnée, quant à une éventuelle ordination d'individus pour ces fonctions. Timothée et Tite étaient autorisés par l'apôtre à établir des anciens. Tite 1, verset 5. Mais il n'y a aucune instruction pour que des anciens nomment d'autres anciens, ni pour que l'assemblée choisisse des anciens. Le fait que ses serviteurs aient été autorisés par l'apôtre à établir des anciens montre qu'au temps de l'apôtre, il y avait des assemblées dépourvues de surveillants nommés. Elles manquaient d'anciens dûment établis par manque d'autorité apostolique, directe ou indirecte, pour les établir. Il est donc clair, selon l'Écriture, qu'il ne peut pas y avoir d'anciens officiellement nommés si ce n'est par un apôtre ou par ses délégués. Il apparaît donc que l'établissement d'anciens ou l'ordination de ministres du culte par un homme n'a pas l'appui de l'Écriture. Cela n'implique pas qu'en un temps de ruine, le travail de surveillant ne puisse pas être accompli, ni qu'il n'y ait personne propre à effectuer cette tâche. Le travail de surveillant n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui, et ceux qui scripturairement sont qualifiés pour ce travail peuvent en toute simplicité servir le peuple du Seigneur dans leur localité. Il est bon que nous les reconnaissions gardant toujours à l'esprit la force exacte des paroles de l'apôtre quand il dit « Si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. » L'apôtre ne parle pas de quelqu'un aspirant à une fonction afin d'occuper une position ou afin d'exercer une autorité, mais il parle du désir d'exercer cette œuvre bonne. La chair aime les fonctions, les offices, les positions et l'autorité, mais elle rechigne devant la tâche, devant l'œuvre. Quand on a saisi cela, on doit admettre que peu nombreux sont ceux qui ont le désir que l'apôtre considère. Les qualités qui devraient marquer de telles personnes sont clairement énoncées et, comme quelqu'un a dit, les directions mêmes qui concernent les anciens et les serviteurs ne sont pas, pour ainsi dire, simplement pour eux. Elles nous montrent le caractère que Dieu apprécie et qu'il cherche chez les siens. Pensée de F. W. Grant. Le caractère moral d'un ancien doit être au-dessus de tout reproche, irrépréhensible. Il doit être mari d'une seule femme, ce qui s'appliquait spécialement à ceux du paganisme avec sa polygamie. Un homme converti ayant plus d'une femme, bien que ne devant pas être rejeté, était disqualifié pour la surveillance. En outre, un tel homme devait être sobre dans ses jugements, sage dans ses paroles, honorable dans son comportement et hospitalier. Verset 2. Il devait être propre à enseigner, ce qui n'implique pas nécessairement d'avoir un don de docteur, mais plutôt d'être apte à aider les autres dans leurs exercices spirituels. Il ne devait pas être adonné au vin ou à la violence dans ses actions, non batteur. Au contraire, il devait être doux, évitant les disputes, non querelleur, et ne pas être cupide, n'aimant pas l'argent. Verset 3. De plus, il doit aussi être quelqu'un qui conduit bien sa maison, ayant des enfants soumis. Des exhortations qui indiquent clairement qu'un surveillant devait être un ancien non seulement marié et possédant une demeure, mais ayant des enfants. Il ne doit pas être un novice. Le Seigneur peut utiliser un jeune chrétien pour prêcher à d'autres dès qu'il est converti, mais ce serait évidemment une erreur qu'un tel prenne une place de surveillant. Cela le conduirait probablement à tomber dans la faute du diable. La faute du diable, comme quelqu'un l'a bien dit, c'est de s'élever à la pensée de sa propre importance. Pensée de Gien Narby. Enfin, le surveillant doit avoir un bon témoignage de ceux de dehors, sinon il tombera dans l'opprobre et dans le piège du diable. Le piège de l'ennemi est d'entraîner le croyant dans un comportement douteux devant le monde, de sorte qu'il ne peut plus s'occuper d'autres comportements douteux parmi les saints. Versets 8 à 13. Citation de l'Écriture. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve. Ensuite, qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même, que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Fin de citation. L'apôtre nous donne ensuite les qualifications nécessaires pour les diacres ou serviteurs. Le diacre est quelqu'un qui sert. Acte 6 nous apprend que son travail spécial est appelé le service aux tables, et, selon le contexte, cela consiste à répondre aux besoins corporels et temporels dans l'assemblée, en contraste avec le travail du surveillant qui se rapporte plus spécialement aux besoins spirituels. Néanmoins, il n'est pas moins nécessaire que le serviteur ou diacre ait des qualités spirituelles. Ceux choisis pour le travail de diacre dans l'assemblée primitive à Jérusalem devaient être des hommes ayant un bon témoignage, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse. Acte 6, verset 3. Nous apprenons ici que, comme les surveillants, ils doivent être graves, non doubles en parole, non adonnés au vin ou à la cupidité. En outre, ils doivent garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Maintenir la bonne doctrine ne suffit pas. L'orthodoxie sans une conscience pure indiquerait que la vérité a peu de force sur celui qui la possède, et donc que celui-ci est incapable d'avoir de l'effet sur d'autres. En outre, les serviteurs ou diacres doivent avoir été éprouvés et démontrés par l'expérience qu'ils sont irréprochables dans leur propre conduite et donc capables de s'occuper de questions auxquelles ils auront forcément à faire face dans leur service. Leurs épouses aussi doivent être graves, non médisantes et fidèles en toutes choses. Leur caractère est spécialement visé dans la mesure où le service des diacres, ayant trait aux besoins temporels, il peut donner l'occasion aux femmes de faire du tort, à moins qu'elles ne soient fidèles en toutes choses. Comme les surveillants, les serviteurs ou diacres doivent être maris d'une seule femme et conduisant bien leurs enfants et leur maison. Ici aussi, ces exhortations impliquent que le diacre ne soit pas un jeune homme, mais quelqu'un de marié et ayant des enfants, donc un homme d'expérience. Au cas où on penserait que la fonction de serviteur ou diacre est inférieure à celle de surveillant, l'apôtre déclare spécifiquement que ceux qui ont bien servi acquièrent pour eux-mêmes un bon degré et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus, une vérité, comme cela a souvent été souligné, remarquablement illustrée par l'histoire d'Étienne. Actes 6, versets 1 à 5 et versets 8 à 15. Versets 14 à 16. Le mystère de la piété. Citation de l'Écriture. Je t'écris ces choses espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Fin de citation. L'apôtre termine cette partie de l'épître en déclarant expressément que sa raison d'écrire ces choses est que Timothée sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il nous est dit que la maison de Dieu est l'assemblée du Dieu vivant. Ce n'est plus un bâtiment fait de pierres matérielles comme au temps de l'Ancien Testament, mais une compagnie de pierres vivantes, des croyants. Elle est formée de tous les croyants vivant sur la terre à un moment donné. Aucune assemblée locale n'est jamais appelée la maison de Dieu. En outre, elle est l'assemblée du Dieu vivant. Le Dieu qui habite au milieu des siens n'est pas comme les idoles mortes que les gens adorent, qui ne peuvent ni voir ni entendre. Le fait que notre Dieu soit vivant est une vérité d'une importance bénie, mais solennelle, et qu'on ne peut pas facilement oublier. Plus loin, l'apôtre nous dit que si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant. Chapitre 4, verset 10. Le Dieu vivant est un Dieu qui se plaît à soutenir et bénir les siens. Néanmoins, si la sainteté qui convient à sa maison n'est pas maintenue, Dieu peut rendre manifeste qu'il est le Dieu vivant dans des voies gouvernementales solennelles, comme avec Ananias et Saphira, qui ont fait l'expérience de la vérité de ses paroles. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. Nous apprenons en outre que la maison de Dieu est la colonne et le soutien de la vérité. La colonne présente la pensée de témoignage. Le soutien est ce qui supporte. Il n'est pas dit de la maison de Dieu qu'elle est la vérité, mais elle est la colonne ou le témoin de la vérité. Christ, sur la terre, était la vérité. Jean 14, verset 6. Et nous lisons aussi « Ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Aussi grande que soit sa faillite quant à ses responsabilités, le fait demeure qu'en tant qu'établi de Dieu sur la terre, l'assemblée reste le témoin et le soutien de la vérité. Dieu n'a pas d'autre témoin sur la terre. En un jour de ruine, il peut n'y avoir qu'un petit nombre d'individus faibles qui maintiendront la vérité, tandis que la grande masse professante, défaillante en tant que témoin, sera vomie de la bouche de Christ. Il est important de rappeler qu'il n'est pas dit que l'assemblée enseigne la vérité, mais qu'elle a à témoigner de la vérité déjà trouvée dans la parole de Dieu. L'Assemblée ne peut pas non plus prétendre avoir l'autorité de décider qu'est-ce qui est la vérité. La parole est la vérité et porte avec elle sa propre autorité. Du fait que l'Assemblée est la maison de Dieu, du Dieu vivant, et le témoin est le soutien de la vérité, combien il est important de savoir comment nous comporter dans cette maison de Dieu. En vue de ce comportement pieux, l'apôtre parle du mystère de la piété ou du secret du bon comportement. Quelqu'un a écrit de ce passage: il est souvent cité et interprété comme s'il parlait du mystère de la déité ou du mystère de la personne du Christ. Mais c'est le mystère de la piété, ou le secret par lequel toute piété réelle est produite, la source divine de tout ce qui peut être appelé piété dans l'homme. Pensée de Jean Darby. Ce mystère de la piété est ce qui est connu par la piété, mais qui n'est pas encore manifeste pour le monde. Le secret de la piété réside dans la connaissance de Dieu manifestée dans et à travers la personne de Christ. Ainsi, dans ce beau passage, nous avons Christ présenté comme faisant connaître Dieu aux hommes et aux anges. En Christ, Dieu a été manifesté en chair. La sainteté absolue de Christ a été vue en ce qu'il a été justifié dans l'Esprit. Nous sommes justifiés par la mort de Christ. Lui a été scellé et oint entièrement en dehors de la mort, ce qui est la preuve de sa sainteté intrinsèque. Puis, en Christ comme homme, Dieu a été vu des anges. En Christ, il a été donné à connaître au monde et a été cru dans le monde. Enfin, le cœur de Dieu est donné à connaître par la position actuelle de Christ dans la gloire. Tout cela est appelé le mystère de la piété, parce que ces choses ne sont pas connues des non-croyants. Ceux-ci peuvent en effet apprécier la conduite extérieure qui découle de la piété, mais le non-croyant ne peut pas connaître la source secrète de la piété. Ce secret n'est connu que des personnes pieuses, et le secret réside dans la connaissance de Dieu, et la connaissance de Dieu leur a été révélée en Christ.